Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous suivons la ligne droite toujours avec Jean-Eudes Gana désormais. Jean-Eudes Gana, bonjour. Je rappelle que vous êtes déjà chroniqueur de Radio Courtoisie, mais vous êtes aussi le porte-parole du mouvement Chouan. Vous êtes un de ceux qui s'est le plus positionné sur cette affaire Quentin, qui vous avait particulièrement touché en tant que militant identitaire. Déjà... vous qui avez toujours eu un pied à la fois dans le militantisme et la politique aussi, qu'est-ce que vous pensez des retombées politiques de l'affaire Quentin ?
Bien, écoute, nous allons le voir dans les prochains mois. Peut-être est-il trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais ce que l'on peut voir déjà, c'est qu'à droite, et pas seulement, on arrive enfin à la fin du cycle Clément Méric, vous savez, où l'antifascisme était devenu... quelque chose de louable, de moral, où les antifas étaient des gentils garçons. Voilà, nous avons vu des condamnations unanimes de la violence d'extrême gauche, et même s'ils ont été longs, étonnamment longs d'ailleurs, parfois à réagir, tous les responsables de droite ont bel et bien dénoncé la mouvance antifa, Retailleau allant même jusqu'à inverser le front républicain, puisqu'il a dit que désormais le danger pour la République, alors bon, ce sont des valeurs très galvaudées, hein, ce sont des mots, et c'est symbolique, eh bien, le danger pour la République, c'était la France insoumise. Voilà. Alors espérons, sans trop y croire, que désormais les militants identitaires et radicaux vont cesser d'apparaître dans l'esprit de nos représentants comme des débiles ou des gens un petit peu dangereux, et que la prochaine fois qu'on fermera leur salle de boxe, notamment, dont on connaît désormais l'utilité, eh bien, ils recevront plus de soutien. Voilà. Mais ce qui est assez intéressant, amusant, quoique ce soit d'un cynisme assez déconcertant, c'est de voir la gauche assez modérée, la gauche modérée, enfin dite modérée d'ailleurs, vous savez, Quotidien, le Parti Socialiste, etc., qui est unanime à condamner Mélenchon, à condamner la France Insoumise. Évidemment, tous les concurrents du vieux tribun sont trop contents de faire enfin haro sur le bidet, dans l'espoir, on verra si cet espoir sera déçu ou non, de récupérer des parts du marché électoral. Alors, je dis que c'est amusant et cynique parce qu'en réalité, le Parti socialiste, dans les années 80 et 90, a très largement joué sur les gros bras de l'extrême-gauche pour perturber toutes les réunions de Jean-Marie Le Pen, pour attaquer ses militants, pour pratiquer la violence sans aucune forme de vergogne. Voilà. Et alors, dans tout cela, eh bien, la France insoumise, permettez-moi de le dire avec un brin de provocation, je dois dire qu'ils ont été assez exemplaires. Alors, non pas du point de vue moral, évidemment, hein, leur déni mensonger des liens entre leur parti et puis les assassins, voilà, était comme un véritable crachat sur le corps encore chaud de Quentin, notamment lorsqu'ils ont commencé à nous expliquer que la Jeune Garde, je crois que c'est Mathilde Panot, hein, que la Jeune Garde ne pratiquait pas le lynchage sur des hommes à terre, ou alors que leur parti n'avait rien à voir avec les violences, que... Bompard laissait entendre que Jacques-Élie Favreau n'avait pas participé au lynchage de Quentin. Évidemment, tout cela a été assez ignoble, mais du point de vue politique, on peut dire qu'ils tiennent bon dans la tempête. Ils s'estiment agressés, ils s'estiment dans leur bon droit, ils refusent de condamner l'antifascisme, ils dénoncent la meute médiatique, voilà, ils sont à leur échelle, si je puis dire, assez droits dans leurs bottes, et je crois que ceci va plaire à leurs militants. D'ailleurs, ils ont beau jeu, hein, avec leurs militants de base, d'invoquer l'antifascisme ambiant pour justifier leurs actes. Puisqu'après tout, si tondre des femmes à la Libération n'est pas un acte abject, pourquoi tabasser des gamins le serait ? Et puis, il faut voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux tous les gauchistes qui commencent à faire des mèmes un peu humoristiques ou censés l'être, où l'on voit des résistants faire une minute de silence pour les nazis assassinés. Sous-entendu, Quentin était un nazi. Et donc, la minute de silence à l'Assemblée est une honte, n'est pas digne de notre héritage de la résistance française. Et sous-entendu également, puisque Quentin était un nazi, Quentin méritait de mourir. Voilà. Alors, vous voyez, même samedi dernier, nous, par exemple, lors de l'hommage que nous avons organisé à Angers, où nous étions entre 100 et 150, l'hommage de dernière minute, il y a des militants gauchistes qui n'ont pas hésité à venir essayer de perturber l'hommage, à venir essayer de perturber les discours. Croyez-moi, tous ces gens-là s'estiment dans leur bon droit et leur condamnation, leurs larmes de crocodile, leur, leur, leur très léger, très mollo dans la voix, ne sont que comédie. D'ailleurs, il suffit de voir que le père de Jacques-Élie Favreau n'a pas
Oui.
hésité au micro à dire qu'il n'avait rien à dire aux parents de Quentin, qu'il ne ressentait pas spécialement de peine. Voilà, le ton est donné sur ce qui les anime. Et je crois, contrairement à ce qu'Alice Cordier vient de dire tout à l'heure, je crois qu'hélas, la séquence que nous vivons, le martyre de Quentin ne présage pas forcément une dégringolade de la France insoumise. Voilà. Je crois que la diabolisation de la France insoumise, qui est, ma foi, parfaitement légitime, la preuve qu'elle a des liens avec des gens qui sont violents, qu'elle entretient ces liens, qu'elle favorise la violence, ne va pas lui faire perdre de voix, parce qu'en réalité, il y a toute une partie de la population qui est littéralement gauchiste, qui considère que l'électeur du Rassemblement national est un type qui doit être diabolisé, voire matraqué, et qu'en plus de cela, il y a tout l'électorat des banlieues habitué à l'ultra-violence et qui, très franchement, considère que, ça se voit sur les réseaux sociaux, hein, qu'après tout, Quentin était un fragile et que ce qui lui est arrivé est bien fait pour lui, que les fachos méritent de se faire tabasser au sol.
Jean-Edgana, donc il y a plusieurs choses. D'abord, simplement, je crois que vous avez quelques bruits sur votre micro de frottement ou je ne sais quoi, donc peut-être attention à ce niveau-là. Et surtout, il y a une question. Donc, évidemment, on voit que la gauche fait front. Vous avez dit au début que la droite avait mis pour certains un peu de temps à réagir. Et dans un second temps, vous avez la question qui se pose, c'est est-ce que la droite, dans le fond, a réagi de manière satisfaisante pour vous? Est-ce qu'elle a suffisamment fait bloc? Est-ce que les principaux responsables politiques ont la bonne attitude depuis quelques jours?
Et je comprends que tous les responsables politiques n'aient pas envie d'endosser le passé militant de Quentin ou de défendre à tout prix tous les groupes par lesquels il a pu passer, même si en réalité Quentin était avant tout un jeune catholique, bien plus qu'un militant nationaliste classique ou caricatural. Cependant, même si on a vu un des élus, hein, certains hommages qui ont pris la parole, qui n'ont pas hésité à s'afficher avec des mouvements estudiantins ou militants de terrain, moi, j'ai trouvé le soutien assez timide. Je vais être franc avec vous. Et j'ai surtout déploré de la part de certains, notamment Jean-Philippe Tanguy ou Jordan Bardella, qu'on mette sur le même plan l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite et l'extrême gauche, parce que en réalité, il y a des groupes identitaires ou nationalistes qui, quoi qu'on pense de leurs idées, proposent, agissent, militent. Et il y a une extrême gauche qui n'existe que pour perturber, attaquer, dégrader tout ce qu'elle apparente, elle, au fascisme. Et ceci va de Valérie Pécresse à Yvan Benedetti. Et donc, mettre sur le même plan des gens qui n'existent que pour s'attaquer aux autres et d'autres qui, quelle que soit la radicalité ou l'extrémisme de leurs idées, militent voilà, avec un projet, bien, je crois que c'est une véritable erreur.
Et alors justement, c'est souvent le discours qui est mené même par les centristes. C'est pour ça que c'est surprenant aussi de le voir dans la bouche de Jean-Philippe Tanguy ou de Jordan Bardella, c'est que le discours qui est tenu par la plupart des centristes, et même d'une partie de la gauche, c'est de renvoyer dos à dos systématiquement les morts liées à l'extrême droite et les morts liées à l'extrême gauche.
Oui, vous savez, c'est totalement stupide. C'est exactement comme si, après tout, pourquoi pas hein, d'ailleurs, on disait que le centrisme, ça équivaut à éborgner des gilets jaunes. Voilà. Et qu'on mettait dos à dos Emmanuel Macron et Pinochet. Voilà, parce qu'il a réprimé des manifestations. C'est absolument stupide. Il y a des violences en politique. Ça existe. Mais l'on ne peut pas dire que les gens d'extrême droite soient d'un naturel particulièrement violent. Parce que, pardonnez-moi, mais pour le nombre de fois où ils sont agressés, où l'on fait sortir leur nom dans la presse, où l'on essaye de perturber leurs hommages, où l'on interdit leurs manifestations, on ne peut pas dire que l'extrême droite française ait réagi avec énormément de violence et de virulence. Jusqu'ici, contrairement à ce que raconte la gauche, elle n'est pas en train de monter des projets terroristes, elle n'a tué personne. Et d'ailleurs, tout ce que la gauche trouve à dire pour essayer de diaboliser la droite, c'est de parler de la noyade d'un type d'origine maghrébine, là, récemment. Alors que ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, puisque c'est une histoire de soulard en réalité. Il nous parle aussi à l'envi de Loïc Le Priol, parce que Loïc Le Priol était un ancien du GUD. La réalité, c'est que il est accusé d'avoir tué quelqu'un lors d'une soirée, et ça relève de la voyoucratie, hein, du fait divers, bien plus que du fait politique. Voilà. Donc, ils n'ont rien à nous opposer, et cette espèce de manière qu'on a de mettre dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite est absolument ridicule.
Pardon, décidément. Merci, Joël de Gana, je vais y arriver. Il nous reste 2 minutes encore. Justement, sur la réaction de la gauche de son côté, on a l'impression que, dans un premier temps, absolument tout le monde, sans exception, a effectivement condamné exprimé son dégoût, son horreur de la mort de Quentin. Et puis, dans un second temps, il y a eu cette idée d'instaurer très vite un récit médiatique qui, finalement, justifiait la mort de Quentin par sa nazification, ou alors l'expliquait par une sorte d'histoire de guerre des gangs entre extrême droite et extrême gauche à Lyon.
Oui, vous savez, la jeune garde s'est montée à Lyon en prétextant des violences de l'extrême droite. Et suite à cela, relayée très complaisamment par un certain nombre de journalistes, Raphaël Arnaud est parvenu, de manière assez habile, il faut dire, à faire fermer un certain nombre de locaux, à faire dissoudre des associations, avec l'aide d'ailleurs d'un type comme Darmanin, qui est un ancien des Républicains, qui est censé être un homme de droite à l'origine. Et là, aujourd'hui, l'extrême gauche reprend ce narratif. Elle a repris un petit peu de poil de la bête, a passé la sidération de la mort de Quentin et les premiers jours ou les premières heures. Et elle explique qu'en réalité, c'est une guerre de gang, voire que c'est une réaction quasi légitime. Bon, c'est absolument idiot. Comme l'a rappelé tout à l'heure Alice Cordier, le procureur a bien parlé d'un guet-apens. C'était bien des jeunes gens qui n'étaient pas venus pour en découdre spécifiquement avec l'extrême gauche, mais qui étaient là pour assurer la sécurité de jeunes filles qui venaient faire un happening, armé d'une banderole. Ce narratif qui va finir par s'imposer, hélas, je le crains, dans les médias de gauche qui vont très vite se ressaisir, ce narratif est évidemment mensonger. Ce que j'espère de toutes mes forces, c'est que les élus de droite, les représentants de droite, ne vont pas tomber dans le piège de finalement se dédire ou de mettre de l'eau dans leur vin. Il y a quelqu'un qui est mort, qui aurait pu être un militant du Rassemblement national. Il y a eu d'ailleurs, rappelons-le, dans le passé, des militants du Front National qui sont morts lors de collages d'affiches. En fait, cette violence n'est pas nouvelle. La seule différence, c'est que pour la première fois, les médias ne minimisent pas cela. Et que pour la première fois, les médias ont pris conscience, au moins une partie d'entre eux, du véritable danger que représente l'extrême gauche. Donc, le coup de la guerre des gangs, etc., ça ne tient pas. Nous, lorsque, en 2023, à Angers, nous avons été victimes 4 nuits d'affilée d'attaques de la part de l'extrême gauche et de ses supplétifs banlieusards, armés de mortiers, de battes de baseball, de machettes, etc. Ce que la presse a retenu, c'est que les fascistes avaient agressé la gauche parce que nous étions défendus. Et à l'époque, la droite avait été d'un silence et d'une lâcheté assez confondante, à l'exception de Stanislas Rigaud, notamment, et de membres de Reconquête. Écoutez, je suis ravi de voir que le climat change. Pour autant, il va falloir tenir sur le long terme. Et ce qu'il faut reconnaître à la gauche par rapport à nous pour l'instant, et sa capacité justement à affronter la tempête médiatique et à tenir bon. Voilà. Nous avons tendance à avoir peut-être un peu trop peur du climat médiatique.
Eh bien, espérons que la peur change de camp au fil du temps et au fil que changent effectivement ou que se révèlent plutôt les vrais coupables. Merci beaucoup, Joël de Gana.
Merci beaucoup, au revoir.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, comme toutes les semaines, j'ai le plaisir de recevoir Jean Messia. Alors avec Jean Messia, évidemment, nous allons revenir sur cette affaire Quentin. Cette affaire Quentin dont nous parlons depuis maintenant 8h15. Alors Jean Messia, je ne sais pas si vous m'entendez. Pour tout vous dire, vous m'expliquiez vouloir commencer avec, je cite, un focus sur ce que sont les Antifa du point de vue métapolitique. Je précise que Richard Decaize remplace pour ses premières minutes.
Bonjour Jean-Messia. Bonjour Alexandre, bonjour Richard. J'espère que vous allez bien, bonjour aux auditeurs. Oui, parce qu'il me semble très intéressant de faire un point sur un malentendu ou une ambiguïté qui est sciemment cultivée par les médias au sujet des Antifa. On entend donc que les Antifa, comme vous le savez, sont pleinement mêlés, directement mêlés à l'assassinat, au massacre de Quentin. Plusieurs de leurs membres sont actuellement en garde à vue. Et donc, on a tendance à les présenter comme des personnes qui seraient en réalité anti-système, en marge du système, des gens qui se battraient avec des méthodes radicales contre le système capitaliste, etc. Tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est de la flûte. En réalité, les organisations Antifa, les Antifa, ne sont que les projections de lave de haine de la France, dont la strate supérieure de ce volcan est faite par LFI, et le ventre profond de ce volcan est le macronisme. En réalité, la chute des Antifa, si vous voulez, c'est le bout de la ficelle qui, lorsqu'on l'a tiré, a fait venir toute la pelote de haine de la France, qui est en réalité une chaîne. Alors, en fait, ce qui diffère dans cette histoire, ce sont évidemment les moyens d'action pour assouvir la haine de la France. Il est évident qu'un macroniste salonard et capitonné dans sa haine de la France, il n'a rien à voir avec un antifa blouson noir cagoulé, avec des bottes coquées et des battes de baseball. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue tant organique que fonctionnel, les antifas sont une partie intégrante du système qui nous dirige depuis 50 ans. D'ailleurs, organique pourquoi ? Vous voyez les profils. Les profils, ce n'est pas du tout des marginaux. Ce n'est pas des fils d'ouvriers ou des fils de tôlards ou des gens qui vivent dans les banlieues. La plupart sont des fils de notables, des fils de bonnes familles qui font même des études dans les écoles de commerce et qui sont, excusez du peu, attachés parlementaires.
Des fils et des filles.
Et des filles, oui. Rien que d'un point de vue organique, si vous voulez, ils viennent quand même de classes sociales dont on peine à voir en quoi, en fait, elles sont radicalement opposées au système. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je l'ai défloré il y a un instant, leur idéologie n'a rien d'antisystémique. Leur idéologie, c'est quoi ? C'est en finir avec la France de manière la plus brutale possible. D'ailleurs, moi, je vois dans ce meurtre tragique de Quentin rien d'autre que le symbole, l'allégorie de la mise à mort de la France par ce même système il y a depuis 50 ans. On nous dit qu'il y a 5 ou 6 personnes qui sont impliquées dans le massacre de Quentin. Mais vous savez, il y a 5 ou 6 partis qui sont impliqués dans le massacre de la France depuis 50 ans. Il y a les Républicains, le Centre, le Parti Socialiste, les écologistes, LFI et le macronisme. On est 6. Et chacun, d'une manière ou d'une autre, assène des coups mortels à la France depuis 50 ans dans l'espoir de l'oxyre, comme ce fut le cas de ce malheureux Quentin. Quentin, en réalité, est l'incarnation presque la plus épurée de tout ce que le système fait métier de détruire depuis une cinquantaine d'années. Quentin est un Français assimilé à la France, il est catholique, il est sans histoire, il aime son pays, il est patriote, on le qualifie de nationaliste, il aime son pays. Donc c'est tout ce que déteste, en fait, avec des degrés divers, le système qui nous dirige. Et en fait, ce qu'on découvre à travers ce meurtre, c'est toute la chaîne de la haine de la France qui va du macronisme, qui, rappelons-le, a quand même été à l'origine de l'élection de plusieurs dizaines de députés de la France insoumise dans des duels avec le Rassemblement national. Gabriel Attal a donné instruction de voter pour des députés de la France insoumise, donc on ne peut pas nous expliquer que la France insoumise et la Macronie sont des ennemis jurés quand ils se sont fait la courte échelle pour arriver à l'Assemblée nationale mutuellement. Cette jeune garde, qui est l'appendice le plus incandescent et le plus violent de l'idéologie de la France insoumise, est évidemment est le dernier maillon de la chaîne, en quelque sorte. Donc, en fait, c'est tout un système qui, de par son excroissance la plus violente que sont les antifas, qui est littéralement en train de s'effondrer sous nos yeux. Voilà, en tout cas de vaciller et de chanceler après ce qu'on appelle un crime politique. Voilà, c'est un crime politique. Depuis presque 50 ans, nous n'avions pas connu de crime politique en France. Et ce qui est, ce qui arrive, c'est à la fois très grave, mais source d'espérance. Et je pense que, connaissant le parcours et le profil de Quentin, il eût aimé qu'on y voie une source d'espérance pour la France et de résurrection de la France.
Alors, des crimes politiques, il y en a quand même eu en France, et notamment des élus du Rassemblement national, si je ne m'abuse. Mais c'est surtout, je voudrais, une phrase que vous avez dite, parmi toutes celles qui sont justes, qui m'étonne. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que le système est en train de chanceler ? Moi, j'ai l'impression, quand on regarde la façon dont le système médiatique réagit en, d'une part, expliquant à quel point les idées de Quentin sont nauséabondes, d'autre part, en expliquant que la jeune garde a été dissoute alors même qu'elle continue à publier des communiqués, d'autre part, qu'il ne faut pas confondre LFI et la jeune garde, alors que deux jours avant que Quentin ne soit battu à mort, le LFI publie un communiqué pour soutenir le recours que la jeune garde faisait auprès du Conseil d'État pour revenir sur sa dissolution. Et donc, on n'a pas du tout l'impression que le système politique chancelle. Une partie des députés à l'Assemblée nationale, dont une députée Horizon, qui a décidé de rester assise pendant l'hommage rendu à Quentin, a expliqué que c'était un peu facile de ne rendre hommage qu'à Quentin et qu'en fait, il faudrait rendre hommage à beaucoup plus de morts, et notamment les femmes, etc. Pourquoi pas d'ailleurs, effectivement, rendons hommage à Quentin, rendons hommage à tous les SDF qui sont morts dans la rue, alors que le président Emmanuel Macron avait expliqué que sous sa présidence, il n'y en aurait plus un seul qui passerait l'hiver sur les trottoirs. Donc on peut effectivement généraliser l'émotion. Je remarque, moi, que le système se défend bien et que le LFI est parfaitement à l'aise, que les antifas ont continué à manifester dans différentes rues de France et de Navarre. Ils ont notamment manifesté à côté d'une cathédrale le lendemain ou le surlendemain de la mort de Quentin en dégradant l'édifice en partie, que je ne vois pas en quoi le système chancelle.
Bah, c'est pas parce que le système fait bloc qu'il n'est pas affaibli. Vous savez, la jeune garde, c'est un mouvement fasciste, hein, ça vous a pas échappé. La violence, bah,
c'est pas un mouvement fasciste. La jeune garde est une milice d'extrême gauche violente.
Oui, c'est ça.
Mais parce qu'elle n'a pas d'idéologie. Elle est en fait constituée de gros bras et de gens attirés par la violence et qui décident de servir les partis d'extrême gauche. Voilà, c'est pas du fascisme. Voilà, c'est.
Alors, vous savez, les SA, c'était pareil. Hein, ils n'avaient pas d'idéologie autre que celle du parti nazi. En réalité, toutes les idéologies totalitaires ont besoin de milices, de factions, de corps francs. Ça s'est vu au XXe siècle, et vous qui connaissez parfaitement l'histoire du XXe siècle, vous le savez très bien. Vous savez très bien que ces milices ont pour mission d'orchestrer, d'organiser, de générer, de susciter la violence partout pour ensuite se prévaloir du climat de violence et permettre à leur parti de se poser comme le sauveur de la situation, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est ce que la jeune garde et les antifas font depuis des années dans les meetings de la droite nationale. Lorsqu'on voit que, par exemple, les meetings de Reconquête ou du Rassemblement national, qui sont de base des meetings parfaitement pacifiques, tranquilles, où il ne se passe aucune violence, à part les violences que viennent opérer et perpétrer les antifas, soit à l'intérieur des meetings, soit en marge des meetings, ce qui permet au récit médiatique de dire, voyez, ces gens-là, en fait, partout où ils vont, ils provoquent la violence. Et donc, ça jette le discrédit sur les adversaires. C'est exactement ce qu'ils font dans les meetings de la droite nationale depuis des années, et c'est désormais ce qu'ils sont en train de préparer, parce que tout ça, ça n'a été qu'un tour de chauffe, les meetings de la droite nationale. Ce qui se prépare en réalité, c'est qu'ils savent très bien qu'en 2027, eh bien, la droite nationale pourrait emporter l'élection, et à ce moment-là, ils sont mandatés, en quelque sorte, de manière tacite, pour provoquer des échauffourées, des violences, pour faire couler le sang dans les rues, afin de jeter, encore une fois, le discrédit sur l'élection du candidat ou de la candidate nationale, pour dire ces gens-là, ils amènent la violence, ils fracturent, ils divisent le pays, blablabla, blablabla, il faut faire quelque chose, et peut-être même aller savoir, peut-être même aller jusqu'à l'enclenchement de l'article 16, s'ils arrivent à réussir leur coup. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, effectivement, le système fait bloc. D'ailleurs, est-ce que Raphaël Arnaud a été exclu, même momentanément, du groupe LFI à l'Assemblée ?
Non. Non.
Donc, la France insoumise ne peut pas dire « ça n'a rien à voir avec nous ». Quand vous avez deux assistants parlementaires d'un de ces députés qui sont présumés impliqués dans l'assassinat d'un jeune innocent et que LFI ne prend même pas à titre conservatoire de mesures visant à les suivre, enfin, ils savent très bien le faire, et tant mieux, lorsqu'il s'agit de députés impliqués dans des violences conjugales. Ils l'ont fait à deux reprises, pour un premier député en 2022, dont je ne me rappelle plus le nom, pour violences sexuelles, et pour Adrien Quatennens, ils l'ont également exclu parce qu'il était impliqué dans des violences vis-à-vis de sa compagne. Donc ils savent le faire. Pourquoi, vis-à-vis de Raphaël Arnaud, une telle impunité, une telle inaction, une telle inertie ?
Donc, qui ne dit mot consent, en fait. Donc, ils ne peuvent pas venir dire ça n'a rien à voir avec nous, puisque même cette mesure la plus symbolique, ils ne l'ont pas prise. Quant à cette brave dame, cette brave députée d'Horizon, excusez-moi, qui a ouvert la boîte de Pandore des minutes de silence ? Cette brave dame, elle s'est levée quand même au moment de la minute de silence pour Naël à l'Assemblée. Donc, qu'est-ce qui lui arrive soudainement quand il s'agit de Quentin ? Il est trop français, c'est ça ?
C'est effectivement une question qu'on aimerait lui poser. Et pourquoi, brusquement, cette mort-là lui paraît-elle de moins de poids que toutes les précédentes ? On a fait un sondage auprès des auditeurs de Radio Courtoisie en leur demandant justement que c'était la question du jour, si à leur avis, la mort de Quentin signait la défaite de LFI et ça y est, la fin de LFI. Eh bien non. Pour 54% d'entre eux, la mort de Quentin, en fait, n'aura pas le résultat qu'on aurait pu espérer à la hauteur de la violence subie, à la hauteur du scandale manifeste. Voilà, un parti politique qui est violent, qui soutient des dictateurs violents, qui a créé volontairement une milice, qui a fait en sorte que le chef de cette milice soit élu à l'Assemblée nationale, eh bien, ce parti-là, vraisemblablement, ne sera pas touché, ou en tout cas pas trop, par Quentin, la mort de Quentin, d'autant plus que déjà, au moment où les municipales se profilent, aucun parti de gauche, ni même du centre, n'exclut de faire alliance avec LFI pour faire barrage au Rassemblement national.
C'est tout à fait vrai, donc ça confirme par d'autres voies et moyens ce que je disais il y a un instant, à savoir que tout ce système se tient par la barbichette, en fait. Il n'y a pas d'opposition frontale, il n'y a pas d'opposition de nature entre le macronisme et les filles et la jeune garde. Il y a une différence de degré. Voilà, c'est-à-dire que le macronisme veut le remplacement, l'invasion et l'islamisation progressivement pour pas trop bousculer le corps social, le corps national français, là où les filles veut le remplacement et l'islamisation tout de suite, en ouvrant les frontières et la jeune garde par les méthodes les plus violentes. Donc tout ce système-là se tient. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que la chute d'un système, ça relève plus de l'agonie que de la mort subite. Donc c'est vrai que la mort de Quentin à elle seule ne suffira probablement pas à faire vaciller le système, ni d'ailleurs LFI en tant que parti indirectement et supposément impliqué dans le massacre de Quentin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette agonie, dans ce processus de crépusculaire finalement du paradigme qui nous domine, la mort de Quentin est malheureusement ou heureusement un sacré accélérateur. Voilà, vous savez, tous les régimes dominants qui chancellent, crânent toujours en disant il ne s'est rien passé, on est victorieux, ça passera, etc. Dans les régimes totalitaires savent très bien le faire, on se souvient que l'Irak de Saddam Hussein, un de ses ministres, criait à la victoire contre les Américains, alors que les Américains étaient à 50 km de Bagdad. Évidemment, quand la population est sous chape de plomb, on est prié de le croire, mais la réalité des faits est là. Et vous savez, ce n'est pas parce que le récit médiatique dit quelque chose et que les politiques se serrent les coudes et s'épaulent, ça ne veut pas dire que l'écrasante majorité des Français le croit. Je pense qu'une majorité de Français aujourd'hui est acquise à l'idée que le dernier avatar du système antinational dominant qui est Emmanuel Macron est en train de connaître ses dernières lueurs. Voilà, il est en train de chanceler. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se braque et qu'il se cabre. C'est pour ça que maintenant, désormais, il y a des morts dans la rue. C'est pour ça que le récit médiatique devient encore plus outrancier sur la mort de Quentin. On eût imaginé si Quentin avait été racisé ce qu'auraient dit et ce qu'auraient fait la plupart des membres du Gotha médiatico-politique. Là, il n'en est rien, parce que comme je le disais tout à l'heure, Quentin est trop français, trop l'incarnation de tout ce qu'il déteste. Cela étant, je suis intimement convaincu que nous allons vers une chute finale du système, qui a d'ailleurs déjà commencé, puisque le monde entier et les États-Unis sont déjà rentrés dans le nouveau paradigme identitaro-souverainiste. Donc il faut aussi prendre en considération, pour ce qui se passe en France, du contexte international, ou plutôt du contexte occidental, puisque nous avons un nouveau paradigme qui s'est installé aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, après avoir connu une transition paradigmatique depuis 2016, où on a vu revenir Biden, etc. Mais, in fine, toutes les transitions paradigmatiques à travers l'histoire se soldent par la mort du paradigme qui est au pouvoir depuis une cinquantaine d'années et l'émergence, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau paradigme. La France, en la matière, a toujours eu un temps de retard. On se souvient du dernier changement de paradigme au début des années 80, quand la France avait décidé de voter pour Mitterrand, le socialiste, l'étatiste, alors même que le monde occidental se convertissait au néolibéralisme et au riganisme et au thatchérisme. On voit bien que 2 ans plus tard, Mitterrand a été obligé, dans ce qu'on a appelé le virage de la rigueur, eh bien de se convertir finalement à ce nouveau paradigme dominant de l'époque. Donc la France a toujours un temps de retard. Macron, la France de Macron n'y fait pas exception. Mais de toute façon, en 2027 ou ultérieurement, le paradigme identitaro-souverainiste arrivera au pouvoir en France d'une manière ou d'une autre. Le système, les traîtres qui nous dirigent depuis maintenant une cinquantaine d'années le savent très bien. C'est pour ça qu'ils ont tendance à une espèce de fuite en avant, au moins dans le verbe, et désormais, depuis la mort de Quentin, dans la rue.
Jean Messia, je suis de retour. Je voulais vous interroger quand même sur ce système. C'est aussi, et je me fais l'avocat du diable quelque part, mais Yael Braun-Pivet qui instaure une minute de silence à l'Assemblée nationale en hommage à Quentin et qui suspend, avant même que l'enquête soit arrivée à son terme, qui suspend Jacques-Élie Favreau et puis son compère de droit de rentrer dans l'Assemblée nationale. Donc, quelque part, il y a cette idée en France qu'on gagne aussi avec le centre, finalement. La droite ou la gauche gagne en emportant le centre avec elle. Est-ce que le centre, lui, ne se droitise pas d'une certaine façon ?
Bah, vous savez, c'est toute la France qui se droitise. Je pense qu'effectivement, votre analyse, elle était vraie dans une France apaisée, tranquille, où le niveau d'insécurité était raisonnable, où l'immigration ne posait pas les problèmes qu'elle pose aujourd'hui, où le degré de paupérisation n'avait pas encore atteint les classes moyennes. Là, effectivement, la France était au centre dans la sociologie politique et l'anthropologie politique. Donc évidemment, dans une France qui est au centre, la représentation politique de cette France ne peut se faire qu'avec le centre. Bon, le problème, c'est que vu la pente accélérée que la France a prise depuis maintenant un certain nombre d'années, où on a vu l'immigration exploser, l'insécurité exploser, le déclassement français exploser, l'islamisation et la menace identitaire que pèse sur la France exploser, je pense qu'aujourd'hui, la France est moins au centre qu'elle ne le fut il y a 30 ou 40 ans, en conséquence de quoi je ne suis pas persuadé, à supposer que le centre soit resté le centre, et là je vous rejoins, le centre a aussi suivi de manière presque homothétique le déplacement du centre de gravité du pays en l'adoptant au centre de gravité de la scène politique, donc il s'est droitisé, et donc aujourd'hui je pense que l'ensemble de la France, y compris le centre, s'est droitisé, tant et si bien que l'élection se gagnera à droite. Voilà, elle se gagnera davantage, selon moi, par une union des droites, une union des nationaux, que par une union avec le centre qui est resté le centre et qui est aujourd'hui un confetti. Voilà.
Et est-ce que, d'une certaine façon, on avait Arthur de Vatrigan tout à l'heure qui était avec nous à l'antenne et qui expliquait que, finalement, il y avait comme une union des antifascistes qui commencent à Gabriel Attal et qui finit à peu près au NPA ou alors à Raphaël Arnaud, et que la question était surtout une question de degré plutôt que de nature entre tous ces antifascismes. Et que, de manière générale, ce qu'on comprenait, c'est que, étant donné que la droite nationale était toujours l'extrême droite et donc le fascisme et donc potentiellement le nazisme, finalement, une opposition qui serait physique n'était qu'une continuité.
C'est exactement, sans entendre ce qu'a dit Arthur de Vatrigan tout à l'heure, c'est exactement l'analyse que j'ai faite avec Richard de Sèze il y a quelques instants. Moi, je considère, si vous voulez, qu'il y a un continuum entre le macronisme, j'ai même pris l'image du volcan. Les antifas ne sont finalement que l'explosion de la lave de haine la plus violente, la plus incandescente, la plus brûlante, alors que les strates supérieures de ce volcan, c'est LFI, et le ventre de ce volcan, c'est le macronisme. Donc il y a effectivement une chaîne de haine dont les antifas sont le maillon finalement le plus brutal. Les antifas ne sont pas anti-système. Oui. Ils ne sont que l'incarnation la plus violente du système qui va du macronisme jusqu'à LFI.
Et alors, dans ce cas, Jean Messiel, la mentalité de toute cette gauche au sens très large qui irait jusqu'au centre, c'est que finalement, l'extrême droite étant le fascisme et le fascisme étant la menace mortelle, il faut être prêt à tout. Pour pouvoir lutter contre elle. Je crois que c'était cette eurodéputée place publique donc, de Raphaël Glucksmann qui disait qu'elle voterait une chèvre face au RN, enfin elle voterait absolument n'importe qui face au Rassemblement National. Est-ce que... Alors, y a d'autres camps se divisent en deux points à ce niveau-là. Certains disent que, eh bien, il faut justement opposer quelque chose de beaucoup plus raisonnable et de beaucoup plus apaisant à justement cette gauche très large qui considère... qui est dans une rhétorique de l'ennemi à détruire, d'autres qui disent qu'au contraire, étant donné que la gauche tue, que la gauche veut tuer, eh bien, il faut aussi la considérer comme un ennemi mortel, quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, moi, je pense, si vous voulez, que... Bon, évidemment que... moi, je ne souhaite pas pour mon pays que mon pays entre dans une spirale de violence où la violence répondrait à la violence, œil pour œil, et le monde devient aveugle, hein, comme disait Gandhi, je ne souhaite pas pour mon pays un bain de sang, si vous voulez, jamais de la vie. Maintenant, qui veut la paix prépare la guerre. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas se défendre. La légitime défense étant inscrite dans le droit, si nous sommes attaqués ou violentés. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, si vous voulez, pour l'instant, le système actuel a pu se perpétuer par des petites acrobaties politiques, des petits arrangements entre amis au sein des circonscriptions, etc. Mais je ne crois pas que cela va durer parce que les Français ont bien vu que maintenant, si vous voulez, l'Assemblée nationale est quand même fragmentée. Ils ont bien vu qu'il y avait quand même un système et que Gabriel Attal a quand même donné des consignes de vote, de désistement vis-à-vis de LFI. Donc on ne peut pas nous expliquer la fable qui consiste à dire le macronisme et n'a rien à voir avec le LFI, les macronistes qui se pincent le nez en disant LFI c'est le mal absolu, etc. Je le disais en exergue à mon propos, tout ça c'est de la flûte. Si c'était vraiment le cas, ils n'auraient pas passé des accords, et si c'était vraiment le cas, Gabriel Attal n'aurait pas, aux dernières législatives, appelé à voter systématiquement LFI contre le Rassemblement National. Donc vous savez, les Français sont dupes un moment, mais au bout d'un moment quand même, ils ouvrent les yeux.
Et est-ce que justement vous pensez qu'ils vont ouvrir les yeux après une telle affaire en voyant que objectivement la France Insoumise est très directement liée et intriquée même avec ce groupuscule ultra-violent qu'était la Jeune Garde et avec son héritier, donc Génération Antifasciste? Est-ce que là, selon vous, les Français, voire même le centre, les macronistes, vont ouvrir les yeux aussi sur les dangers entre ces liens, entre la violence des mots de LFI et la violence physique de la Jeune Garde?
Bah, le problème, si vous voulez, ce qui est à craindre, c'est plus que, comme je l'expliquais tout à l'heure à vos auditeurs avec Richard Decesse, c'est que les antifas, toute leur violence, que ce soit dans les meetings du Rassemblement National ou de Reconquête, c'est un tour de chauffe. C'est-à-dire que traditionnellement, la décharge de violence symbolique dans une démocratie se fait dans les urnes. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je considère aussi qu'en verrouillant et en bloquant le vote, la possibilité de vote, Emmanuel Macron se rend responsable indirectement de ces violences. Si Emmanuel Macron avait eu la décence de démissionner ou à tout le moins de dissoudre l'Assemblée nationale pour permettre cet exutoire démocratique qu'est l'isoloir, peut-être que nous n'en serions pas là. Évidemment que la violence dans la rue a d'autant plus de chances et de probabilités d'advenir que vous avez rigidifié l'instrument ou neutralisé l'instrument qui permet à cette violence de se décharger de manière pacifique par le phénomène que les psychologues appellent le phénomène de transfert. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est là où c'est le plus inquiétant, c'est qu'en 2027, il va y avoir l'élection amirale de la Ve République, à savoir l'élection présidentielle. On peut croire que cette élection sera celle justement de l'exutoire par excellence de cette violence permettant à tous les désaccords, à tous les furieux, eh bien, d'aller choisir leur candidat dans les urnes. Mais ce que je crains, si vous voulez, c'est que si le résultat sorti des urnes est un candidat ou une candidate du camp national, je crains justement que tout ce que les Antifa ont fait dans les meetings du camp national, eh bien, ça ne soit qu'un galop d'essai par rapport à ce qui se passera en 2027 lorsque s'affichera sur les écrans le nom du vainqueur national de l'élection et que, du coup, les Antifa descendent dans la rue, se mettent à organiser en bons milices fascistes comme les SA naguère ou les milices communistes dans les pays qui ne l'étaient pas au départ dans les pays de l'Est. C'est leur spécialité que d'organiser de toutes pièces de la violence, de faire couler de manière délibérée le sang dans la rue pour ensuite permettre au système en place se draper des oripeaux du système, comment dirais-je, raisonnable, pacifiant et pacifique qui aura beau jeu de dire, voyez, ces gens sont à peine élus, regardez l'état du pays, regardez les fusions de sang et allez savoir, peut-être qu'ils enclencheront même l'article 16 en disant « il y a péril en la demeure ». Donc en fait, il est là le danger. Le danger, c'est que ce que font les Antifa depuis des années avec le succès grandissant des meetings et des rassemblements et des manifestations du camp national, c'est-à-dire organiser des violences pour permettre au récit médiatique de dire « vous voyez comment ce côté-là du spectre politique est violent », eh bien, ça ne soit grandeur nature, en quelque sorte, post-élection 2027.
Et surtout qu'en plus, la faute en incombera médiatiquement, par le système qui voudra se revenir au pouvoir, la faute en incombera au camp national.
Ah bah, c'est sûr, c'est évident. Bah, attendez, vous avez déjà vu des violences organisées par les Antifa en marge d'un meeting de reconquête ou d'un meeting de rassemblement national dont les Antifa sont identifiés comme les ayant entraînés. Vous avez déjà vu France Info, France Inter, France Télévisions mettre en cause les Antifa et dire s'ils n'étaient pas là, ces meetings se seraient bien passés.
Non.
Absolument pas. Et donc, il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'ils changent en quelque sorte une méthode qui gagne. Voilà. Donc, les Antifa, c'est la milice supplétive et auxiliaire du système antinational dirigeant. C'est d'ailleurs pour ça que les Antifa sont autant biberonnés et choyés par le système. Rappelez-vous quand même que Raphaël Arnaud avait menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Il avait menacé de mort Mila. Tous deux d'ailleurs ayant porté plainte le 17 juin pour menace de mort à l'encontre du député Raphaël Arnaud,
oui,
le 17 juin dernier. Ça fait 8 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont été... Ne serait-ce que Raphaël Arnaud a été ne serait-ce que convoqué en auditeur libre?
Non.
Pour expliquer rien du tout.
Non,
mais... Les Antifa ne sont jamais inquiétés sur le plan juridique. Rima Hassan, qui est un membre de la LFI, elle a quand même plusieurs plaintes sur le dos pour apologie de terrorisme, antisémitisme, etc. Elle a été convoquée combien de fois au tribunal? Combien de jugements ont été rendus à son encontre? Je suis désolé, mais je me souviens d'une époque où j'avais juste dit sur Twitter que le préfet des Yvelines était l'ami des islamistes. Le lendemain, je m'étais retrouvé dans un commissariat pendant toute une matinée et mon procès a eu lieu un mois après, dans lequel j'ai été condamné. Donc on voit bien de quel côté penche la justice et qui la justice protège. Bon, les Antifa ne sont pas inquiétés par le système ni par ses institutions. Donc d'où il vient que les Antifa ne sont que l'auxiliaire supplétive du système en place, que le système cherche à protéger parce qu'il estime qu'il risque d'en avoir besoin si le changement de pouvoir a lieu en 2027.
Eh bien, espérons que tout ce système que vous dénoncez, Jean Messia, s'effondrera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous dit à la semaine prochaine pour sans doute parler des conséquences politiques aussi de cette affaire. Merci d'avoir été avec nous.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Ligne droite. La chronique de Lorient simplifié.
Et pour cette chronique, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benjamin Blanchard. Bonjour Benjamin.
Bonjour Alexandre.
Alors, de quoi vouliez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, de la crise politico-religieuse en Arménie qui ne cesse de s'étendre, puisqu'alors que des élections générales sont prévues le 7 juin prochain, le gouvernement arménien de Nikol Pachinian tente de faire taire toute opposition crédible. L'Église apostolique arménienne, à laquelle appartiennent 90% des Arméniens d'Arménie, est la première victime de ces persécutions. Depuis des mois, le gouvernement s'est engagé dans un bras de fer contre le chef de l'Église, le catholicos Garrigin II, en poste depuis 1999, afin de le forcer à démissionner et de le remplacer par un prélat à la botte du gouvernement. Malgré l'emprisonnement de 4 archevêques, l'envoi de troupes armées dans le Saint-Siège d'Echmiadzin, à la recherche d'armes qu'ils n'ont bien sûr jamais trouvées, et la trahison d'une dizaine de prélats, le catholicos refuse toujours de céder à cette grave ingérence de l'État. Pour tenter de sortir de la crise, le catholicos a convoqué une assemblée nationale ecclésiastique qui est l'organe suprême de gouvernement de l'Église. Cette assemblée, censée se réunir tous les 7 ans, est composée de laïcs et de clercs, issus tant d'Arménie que de la diaspora et représentatifs des différentes composantes de l'Église apostolique arménienne. En raison des nombreuses crises de ces dernières années, le coronavirus, l'invasion de l'Artsar, les troubles politiques, elle n'a pas été convoquée depuis 2019. Afin de garantir la sérénité des débats, le catholicos a convoqué cette assemblée, non pas au Saint-Siège d'Echmiadzin en Arménie, mais en Autriche, loin des pressions que n'aurait pas manqué d'exercer le gouvernement de Nicole Pachinian. Alors, on pourrait se dire que le gouvernement de tendance libérale devrait se réjouir de ce bel exercice de démocratie interne à l'Église. Bah, en fait, pas vraiment. Comme souvent avec les libéraux, la voix du peuple n'est bonne que si elle va dans un certain sens. En l'espèce, cette assemblée risquait de renforcer la légitimité du catholicos en montrant qu'il disposait d'un large soutien parmi le clergé et les fidèles, tant en Arménie que dans la diaspora. La réponse de Nicole Pachinian ne s'est pas fait attendre. Il a tout simplement interdit aux catholicos et à 5 hauts dignitaires de l'Église de quitter le territoire arménien comme s'ils étaient des criminels qu'il fallait empêcher de fuir. Avant-hier, 25 archevêques et évêques arméniens se sont réunis à Saint-Hippolyte en Autriche avec des représentants des patriarcats arméniens de Constantinople et de Jérusalem. À noter que seuls 2 membres du clergé d'Arménie ont pu faire le déplacement. Notons également la présence d'un des évêques contestataires, Mgr Ovnan des États-Unis. Le catholicos Garrigin II a ouvert la séance par une allocution transmise en vidéo qui fut suivie de messages d'Aram Ier, chef de l'église arménienne de Cilicie, c'est-à-dire du Proche-Orient, et des patriarches arméniens de Constantinople et Jérusalem. Alors quelles sont les suites possibles à cette crise interne à l'Arménie? Il est fort possible que la crise ne va faire que s'accentuer jusqu'au 7 juin. Date prévue des élections générales. La crise avait débuté avec une marche des habitants de la région du Tavouche, emmenée par leur évêque, pour protester contre la cession de 4 villages à l'Azerbaïdjan. L'église arménienne de tout temps fut l'instrument de la préservation de l'identité, de la culture, de la langue et de la foi arménienne. Aujourd'hui encore, elle est la première à s'élever contre la politique de capitulation et d'abandon menée par le Premier ministre Pachinian. L'Église n'est bien sûr pas la seule victime des actions autoritaires menées par le gouvernement afin d'empêcher toute opposition crédible d'émerger. Ainsi, le milliardaire Samuel Karapetian est toujours en résidence surveillée, alternante avec des séjours en prison. Depuis qu'il a créé son parti Arménie Forte, Karapetian, qui n'a aucun lien avec le régime précédent, renversé par Nicole Pachinian en 2018, apparaît en effet comme une alternative crédible au pouvoir en place et doit à tout prix être empêché de mener son parti aux élections, selon le gouvernement. Il serait bien plus commode pour Nicole Pachinian d'avoir comme seule opposition les représentants de l'ancien régime, largement décrédibilisés, impopulaires et réputés comme corrompus.
Merci beaucoup Benjamin Blanchard pour ce point sur l'Armédie. On vous dit à la semaine prochaine.
À bientôt.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Alors, Gilles Brochard, bonjour, vous êtes avec nous pour votre revue de presse. Alors, peut-être devrons-nous nous presser un peu, mais dans tous les cas, on va bien sûr vous écouter. Alors, la presse n'en finit pas de poser des questions sur la jeune garde et ses degrés de violence.
Oui, à l'image du Point qui lui consacre une double page, mais aussi du Parisien qui a interrogé un membre de la jeune garde qui veut rester anonyme et qu'on appellera donc Léo, qui d'emblée confirme que Jacques-Élie Favreau, l'attaché parlementaire alias Jeff, est un des cadres solides de cette milice, fondée en 2018 et dissoute en juin 2025. Alors Jeff a toujours suivi Raphaël Arnaud, raconte Léo. Ce sont les 2 meilleurs potes. Jeff est loyal, il fait sa sécurité. C'est Ralph qui l'a formé, c'est le suiveur. Et selon Léo, Jeff, en plus de la jeune garde, appartenait à un groupe antifa d'action au niveau de Lyon, je cite, « destiné à taper pour prendre notre revanche quand on se faisait voler notre matériel ». Et lors des guerres entre groupes extrémistes, c'est Jeff qu'on envoie dans d'autres villages pour défoncer les mecs et dire que c'est notre territoire, dit-il. Et puis, comme l'écrit encore le Parisien, coordonner les actions de terrain, c'était notamment l'un des rôles de Jeff, dit Léo. Et lors de la conférence de Rima Hassan à Lyon, l'eurodéputé a affirmé que sa sécurité était assurée par le service d'ordre de LFI, composé de militants formés. Il précise, quand on n'est pas de service d'ordre, on se met autour de l'événement, on fait du repérage, du cadrage, assure Léo, qui confie avoir pris ses distances avec Raphaël Arnaud et son entourage. On s'est même fâché au frontal, mais on savait que ça allait péter un jour, dixit, à lire donc dans Le Parisien et aujourd'hui en France.
On a appris qu'il y avait un second attaché parlementaire de Raphaël Arnaud qui a été identifié.
Oui, alors c'est ce que révèle encore Le Parisien. Il s'agit de Robin Michel, qui a été entendu en garde à vue par les enquêteurs de la division de la criminalité territoriale du Rhône. Et le jeune homme a été interpellé mardi soir au Puy en Velay. Et selon les informations du Parisien, Robin Michel n'est pas son vrai nom, mais un pseudonyme, et travaille depuis 2005 auprès du député LFI, essentiellement dans sa circonscription du Vaucluse. Alors après enquête, celui qui est désigné à l'Assemblée comme étant Robin C est connu du renseignement territorial pour son appartenance à la mouvance contestataire liée à l'ultra-gauche. Puis est également fichier S, considéré comme un individu pouvant commettre des exactions politiques violentes et dangereuses pour la sécurité nationale. À ces deux collaborateurs de Raphaël Arnaud s'ajoute un troisième, Adrien B, qui a effectué un stage à l'Assemblée nationale à ses côtés et qui se trouvait justement auprès de Robin Michel lors de son interpellation et qui est lui-même suspecté dans l'affaire Quentin.
Eh ben, et alors, sur un tout autre sujet, la rumeur d'un départ anticipé de Christine Lagarde à la tête de la BCE prend de l'ampleur.
Oui, alors c'est ce qu'on apprend dans les Échos ce matin, car en effet, le bruit court que Madame Lagarde n'irait pas au bout de son mandat qui normalement s'arrête en octobre 2027. Un départ anticipé de Christine Lagarde permettrait d'attribuer les places au directoire sous la présidence d'Emmanuel Macron, écrit Guillaume Benoît. Mais après deux présidences, depuis la naissance de la BCE, le poste paraît fermé. L'on parle de deux favoris, l'un espagnol, Pablo Hernández d'Écosse, et du néerlandais, Klaas Knot. Un autre nom pourrait être cité, celui de François Villeroy de Galhau, qui partirait de la Banque de France en juin, et qu'Emmanuel Macron verrait bien à la tête de la BCE. Pourtant, le patron de la Banque de France a assuré qu'il prendrait la présidence des orphelins d'Auteuil. Mais vous lirez dans le détail toutes ces opérations mystérieuses dans les Échos.
Et puis, vous avez assisté au lancement d'une nouvelle revue littéraire, Gilles.
Oui, alors, c'est assez rare pour être signalé. Ce lancement a eu lieu hier à l'hôtel Swan à Paris, animé par Jacques Leterre, vous savez, le fondateur des hôtels littéraires et grand collectionneur d'éditions originales et de manuscrits d'écrivains. D'ailleurs, en ce moment, l'hôtel expose des manuscrits d'Alexandre Vialat concernant sa traduction du procès de Kafka, avec notamment une édition dédicacée à André Gide. Alors, la revue qui existait déjà sur Internet s'appelle À rebours, clin d'œil au fameux roman de Huysmans, et le premier numéro tiré à 500 exemplaires compte 175 pages, coûte 27 euros, avec comme thème la transmission. Et on trouve de nombreux textes d'écrivains avec en ouverture un entretien de Maurizio Serra de l'Académie française en compagnie de Guillaume Narguet, le directeur de la revue. Il s'est également entretenu, et c'est original pour son premier numéro, avec le duc d'Anjou, Louis de Bourbon, cousin de l'actuel roi d'Espagne, et qui serait sacré Louis XX si d'aventure la monarchie devait un jour être établie en France. Alors pour lui, la transmission passe par les valeurs et les valeurs du catholicisme. Voici ce qu'il confie. Peut-être que la justice est la valeur par excellence des rois de France. Or, les Français ont aujourd'hui soif de justice, pas seulement pénale, mais également sociale. La littérature du Moyen-Âge rappelle abondamment que les rois sont source de justice. Je cultive donc cette valeur par laquelle beaucoup de belles entreprises peuvent être conduites, surtout en politique. Et s'adressant plus particulièrement aux jeunes, le duc d'Anjou vante la monarchie comme un modèle politique qui peut transmettre, je cite, un message d'unité, mais également de fidélité, de sens de la famille, du temps long et de l'obligation. Pour lui, il faut créer les débats caricaturaux qui opposent sans cesse la démocratie à la monarchie, car ils sont stériles et n'aident pas vraiment la France à résoudre ses problèmes actuels. Voilà, vous pourrez lire donc l'entretien intégral de celui qui propose de servir les Français dans ce numéro d'À rebours, en vous abonnant, par exemple. Alors, je vais quand même donner le site internet, c'est www.arebours-revue.fr. Et puis, pour terminer, mon cher Alexandre, ce petit détail dans la presse, on se demandait pourquoi il ne donnait plus de ses chroniques dans Le Point. Patrick Besson revient dans le dernier numéro. Nous sommes soulagés. Il était tout simplement hospitalisé pendant un mois à la clinique des Buttes-Chaumont et il raconte son aventure dans un texte intitulé « Sortie de secours » que je vous encourage à lire. Pour lui, l'hospitalisation est une fiction. On a hâte de revenir à la réalité, écrit-il. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.
Merci Gilles, il nous reste 2 minutes. Tout de même, si vous voulez, vous avez été très efficace dans votre revue. Si jamais vous voulez rester avec nous pour la zone libre.
Mais bien sûr.
Zone libre.
Alors, bien m'excuser, je suis bien malade.
Très libre la zone.
Mais effectivement, très libre la zone, comme le dit Franck. Il nous reste 2 minutes. Simplement, peut-être un mot sur la dernière couverture de Marianne. Je ne sais pas si vous l'avez trouvée.
Alors,
que j'ai trouvé.
Je ne l'ai pas lu ce matin, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu.
Alors moi, j'ai trouvé cette couverture particulièrement caricaturale et décevante de la part de Marianne, qui titre ou cette phrase assez banale, « Les nouveaux antifascistes en montrant LFI et en fait en barrant anti », donc pour dire que les antifascistes sont les nouveaux, sont les nouveaux fascistes. Ouais. Dans le fond, c'est un petit peu en dessous de ce à quoi on était habitué.
Ah, vous savez, on est habitué aussi avec Marianne, avec des titres provocateurs. Il faut lire peut-être le dossier. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on n'ait pas jusqu'à présent vraiment fait d'enquête sur ce qu'était le rôle de la Jeune Garde, parce que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire, notamment sur son centre de formation. Comment ils ont aussi formé des jeunes à la protection des groupements écologistes, par exemple. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, tout sort aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'évidemment, ça corrobore la fameuse phrase de Pasolini sur l'antifascisme, les antifascistes qui deviennent eux aussi des fascistes.
Oui, alors ça pour le coup, c'est effectivement ce que dit, ce que rappelle Marianne. Et puis, même autre chose dont on n'a pas trop parlé, il y a eu, je crois, un attentat, enfin une tentative d'explosion de bombe auprès d'un ingénieur dans. Alors, si vous évoquez en quelques mots.
Oui, c'est un ingénieur qui est... Bah, en fait, cette bombe a été désamorcée, mais c'est un ingénieur qui a été pris comme dans un attentat, si vous voulez, pour des raisons un peu obscures, d'ailleurs. Mais je pense que toute cette affaire est liée, en effet.
Oui, parce qu'effectivement, il était lié à un projet écologique, potentiellement anti-écologique majeur, donc comme quoi le terrorisme d'extrême gauche n'a pas fini de faire parler de lui. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous ce matin.
Un peu à l'allemande, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
À très bientôt.
Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ce matin. Ligne droite s'arrête sur YouTube et sur X dans quelques instants. Mais avant que ça se termine, eh bien, nous devons vous demander quelque chose.
Oui, envoyez des mouchoirs à monsieur Alexandre de Galzin qui souffre le martyr, mais qui est quand même fidèle au poste depuis ce matin très tôt. Voilà, vous pouvez surtout soutenir la radio en allant sur soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne dès maintenant et nous permettre de continuer en toute indépendance. Merci d'avance.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et tout de suite, eh bien, on écoute Marie-Lise Pellissi qui nous parle de l'euthanasie.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir ici Marie-Lise Pellissier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes porte-parole de la Marche pour la vie, je le rappelle. Et aujourd'hui, eh bien, c'est d'euthanasie qu'on va parler avec vous. Alors, les députés ont, si je ne m'abuse, fini d'étudier en deuxième lecture le texte sur les soins palliatifs et ont commencé à étudier eh bien, celui sur cette fameuse aide à mourir, c'est la dénomination qui est donnée. On a l'impression que parmi ces députés, certains d'entre eux ne veulent strictement aucune restriction, qui veulent qu'on puisse littéralement mourir à la demande. C'est ce qu'on peut voir dans certains amendements. Est-ce que, selon vous, c'est le projet de ces porteurs du texte ?
Alors, effectivement, hier soir, donc, ont été débattus les deux premiers articles du texte, qui sont les articles principaux. Il y a eu une vraie guerre sémantique, hein, quand vous parlez d'aide à mourir. Effectivement, tous ceux qui s'opposent à cette loi ont essayé de remettre dans la loi l'euthanasie et le suicide assisté, ou au moins de remettre le terme « active » à côté de « aide à mourir » pour ne pas confondre avec les soins palliatifs. Oui, on peut, je pense voir une volonté très ferme de donner, de libéraliser totalement à terme ce fameux droit à mourir. C'est ce que veut la DMD, c'est ce que veulent les promoteurs de ce droit, puisque de toute façon, à partir du moment où vous créez un droit à avoir un suicide en fait assisté médical dans nos hôpitaux, pourquoi il serait réduit à certaines personnes, à certaines maladies. Donc on peut clairement voir ça.
Parce qu'actuellement, pardon, il y a 5 critères cumulatifs donc, qui sont nécessaires pour pouvoir avoir accès à cette fameuse aide à mourir, comme ils l'appellent.
Oui, alors ces critères, en fait, en réalité, sont assez flous, même médicalement parlant. Par exemple, sur la question du pronostic avancé, les médecins, aujourd'hui, ils le disent, hein, ils ne peuvent pas prévoir quand viendra la mort. Donc, la loi telle qu'elle est prévue, et ça, il faut bien comprendre, n'est pas du tout prévue pour des personnes agonisant, hein, telles que le disait Olivier Ferlani, l'auteur du texte, lors de, des prises de parole lundi. Il disait, lorsque la vie est devenue une atroce agonie, non, en fait, il ne s'agit pas de donner la mort seulement pour des personnes qui sont en agonie. Il s'agit bien de donner la mort à des personnes qui ont peut-être encore des années de vie devant eux, mais qui ne veulent pas vivre une certaine dégradation physique.
Et alors, ce qui est assez fascinant dans ce qui a été aussi voté récemment, c'est le fait que l'idée d'un droit opposable pour les soins palliatifs a été rejetée. Donc, c'est-à-dire que je crois que c'est le Rassemblement National et même la droite en général qui proposaient cette idée selon laquelle il faut qu'il y ait des soins palliatifs sur tout le territoire français pour pas qu'en fait on puisse choisir l'euthanasie à défaut de soins palliatifs. Et même ça a été rejeté.
Évidemment, ça a été rejeté, et puis de toute façon, ça sera le cas dans tous les cas, à partir du moment où vous proposez l'euthanasie et ce service qui est moins cher, qui est plus rapide. Les personnes malades ont tendance à se considérer comme des fardeaux, donc forcément, elles vont plus facilement se tourner vers l'euthanasie. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit et redit dans l'hémicycle hier. Je note que tous les amendements qui avaient été proposés pour modifier le texte ont été rejetés hier. Et la grande phrase, le grand slogan des promoteurs de l'euthanasie, c'était la question de la volonté individuelle.
Alors, on va en parler effectivement de. On va en parler de ça parce que c'est l'argument principal qui est renvoyé. En fait, c'est selon laquelle tout cela repose en fait sur une idée assez très moderniste de la liberté, selon laquelle on serait des êtres séparés les uns des autres, doués d'un libre arbitre absolu et pouvant choisir sans aucune influence tous nos actes. On a l'impression qu'il faudrait presque un changement philosophique de fond de la liberté pour pouvoir arriver à une solution là-dessus.
Alors effectivement, il y a une vraie divergence sur ce qu'est la liberté. Moi, ce que j'aimerais dire, alors pour eux, ce n'est pas une loi qui serait là pour supprimer les malades, ce ne serait pas une loi pour tuer nos personnes âgées, mais bien une loi de compassion pour répondre à une demande individuelle. Mais la société doit-elle répondre et créer des droits pour répondre à chaque volonté individuelle? Je pense que ici la loi crée non seulement un droit pour les personnes malades, mais du coup, par conséquent, un devoir, et le devoir de donner la mort. Et d'ailleurs, je note tout de même que donner la mort, ce terme est totalement galvaudé, parce que le don, c'est quelque chose de positif. On donne un cadeau, on donne de l'affection, mais on ne donne pas la mort. Donner la mort, c'est supprimer la vie. Or, la société est faite pour préserver la vie des citoyens, pour faire en sorte que les citoyens vivent en communauté et de manière sécurisée. Donc, le rôle de la société n'est absolument pas de répondre à ses désirs et ses libertés individuelles. Et puis, bien sûr, il faut quand même préciser, et ça a été dit hier dans l'hémicycle, je salue les prises de parole courageuses de beaucoup de députés hier, la pression que va donner cette loi sur les personnes vulnérables, elle est réelle, on la voit dans les autres pays. Monsieur Patrick Hetzel a cité la Cour constitutionnelle allemande qui voit des personnes âgées venir en Allemagne, dans notamment l'état de Rhénanie, pour échapper à la pression qui a lieu aux Pays-Bas, parce qu'ils se disent qu'ils pourront être euthanasiés. Et j'ai encore aussi l'exemple d'un médecin gériatre qui voyait arriver une patiente qui tremblait dans son service, elle ne comprenait pas pourquoi, et puis au bout de quelques jours, c'est la femme de ménage qui est venue voir le médecin en disant « En fait, cette patiente tremble parce qu'elle a peur que vous la piquiez ». Donc on en est là. Évidemment, la loi a une valeur expressive, et donc il ne s'agit pas juste de répondre à quelques cas, mais bien de promouvoir une valeur. Et ici, c'est finalement une promotion du suicide, de pouvoir choisir sa mort et de pouvoir la demander, de même pas prendre la responsabilité de se suicider dans son coin, mais bien de demander à la société de valider ce choix et d'y participer.
J'écoutais hier Michel Houellebecq qui s'exprimait, alors je sais plus exactement à quelle occasion, mais enfin qui s'exprimait sur ce sujet. Il a toujours été assez mobilisé d'ailleurs pour s'opposer à l'euthanasie. Lui expliquait également que l'autre valeur phare qui était promue durant ce texte sur l'euthanasie, c'était la dignité. Et lui disait, j'ai toujours appris que la dignité était quelque chose qu'on ne perdait pas, et en l'occurrence, là on m'explique que la souffrance peut faire perdre la dignité. Quel est ce renversement sémantique aussi qui a été opéré ?
Un renversement assez dramatique pour les promoteurs de l'euthanasie, notamment c'est marqué sur le site de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. La dignité serait ce que la personne considère elle-même, c'est le jugement que la personne porte sur elle. Ce qui est faux, parce que effectivement la personne humaine est digne quoi qu'il arrive. Mais donc, pour certaines personnes, elles considèrent que si elles rentrent dans une phase de perte de capacité physique, etc., elles se jugent indignes et donc il faudrait pouvoir mourir dans la dignité. Et mourir dans la dignité, pour eux, c'est mourir avec toutes ses capacités et avec la maîtrise, vraiment cette notion de maîtrise de sa mort.
Ça rejoint ce que vous disiez sur la liberté comme justement volonté, enfin capacité à décider ex nihilo, enfin libre, on va dire, de toutes les interventions extérieures et pouvoir être comme un être détaché de tout ça finalement.
Exactement, et ça rejoint d'ailleurs la question du suicide. Sandrine Rousseau, hier, a réagi très violemment sur la volonté de certains députés de remettre le terme de suicide assisté. Et elle disait, je cite, « Sur le suicide, sur les blessures que ça laisse dans les familles, ce que vous faites à jouer avec ce mot n'est pas correct au regard de tous ceux qui ont connu ce drame. » Madame Rousseau, en fait, moi, je suis profondément choquée, justement, qu'on promeuve le suicide assisté et cette loi qui est quand même une promotion du suicide. Justement, quand on connaît ce que c'est que le suicide et les drames que c'est dans une famille, il ne faut pas croire que parce que le suicide sera assisté, parce que ce sera des personnes qui, comme elle dit, seront condamnées, mais on ne sait pas à quel terme, à long ou court terme, c'est les dégâts psychologiques sur la famille ne seront pas aussi graves que pour un suicide normal. Donc je trouve ça totalement fou de dire que parce que la personne l'a choisi, parce que c'est médical, parce que c'est un droit, il n'y aura pas cette souffrance dont elle parlait autour du suicide.
Mais même encore sur ce niveau-là, il y a par exemple l'idée que la comptabilisation des morts par l'euthanasie pourrait être confondue dans les morts naturelles. L'idée même qu'il y ait un délit d'entrave, comme si en fait toute chose, la chose devenait absolument inéluctable. On sent qu'il y a quand même une sorte de peur ou de mauvaise foi quand même à ce sujet-là de la part même des promoteurs.
Alors effectivement, ils font toujours le parallèle avec la question de l'avortement. Alors parallèle un peu qui n'a pas trop de valeur, puisqu'on voit aujourd'hui que l'avortement a été libéralisé et ce n'est pas la pression, malheureusement, de ceux qui s'y opposent qui a permis de restreindre ce droit. Donc effectivement, il y a une volonté très forte de faire passer ce droit et d'en faire vraiment un droit sacré. Moi, je pense qu'il faut que les auditeurs comprennent bien qu'on sera tous concernés par cette loi et que c'est le moment ou jamais de se mobiliser. Comment se mobiliser ? Il faut contacter nos députés, mais pas leur écrire, parce que malheureusement, ils ne regardent pas vraiment leur boîte mail. Il faut prendre un rendez-vous avec eux et les voir en personne et leur dire « Monsieur le député, votez contre cette loi le 24 février, parce que elle est gravissime et elle nous concernera tous. »
Vous pouvez évidemment prendre un rendez-vous à la permanence ou ceci dit, apparemment inonder leur boîte mail, ça peut être efficace.
C'est aussi bon aussi, parce qu'il y a une guerre évidemment de boîte mail.
Exactement.
Et les députés le disent, donc merci chers auditeurs, tous ceux qui ont écrit, les députés disent « Notre boîte mail est inondée de personnes qui s'opposent à cette loi. »
Et c'est déjà ça de prix, on espère que ça aura un effet. Il y a quand même une question qui se pose, c'est toujours de l'idée de ramener ça à un choix individuel fait aussi émerger l'idée que personne d'autre serait concerné par ce qui reste un choix individuel. C'est-à-dire, dans le fond, c'est un petit peu comme la même question qui se posait durant l'avortement ou le mariage pour tous ou autre. C'est que ce qui ne touche que la personne qui meurt, finalement, n'a pas d'impact sur tout le reste de la société.
Oui, ils disent toujours que c'est un droit qui n'enlèvera rien aux autres.
Exactement. Oui.
Alors, moi, je réponds, premièrement, il enlève quelque chose aux soignants, puisqu'il impose de faire passer la mort comme un soin. Il impose, et là, avec la loi actuelle, je rappelle que les établissements de santé n'ont pas d'objection de conscience, donc c'est-à-dire que tout établissement de santé devra offrir l'euthanasie et le suicide assisté, y compris les établissements catholiques. On a entendu hein, dans les médias les petites sœurs des maternités catholiques, les petites sœurs des pauvres, qui alertent et qui disent leur inquiétude parce que leur établissement devra fermer. Alors je pense que vu l'état actuel de notre santé, de notre système de santé en France, je pense qu'on ne peut pas se permettre de fermer des établissements et en plus des établissements de qualité tels que ces établissements catholiques. Donc forcément, ça va imposer ça aux soignants et on l'a vu avec l'avortement. Évidemment, il y a beaucoup de soignants qui sont opposés. Il y a des soignants qui vont démissionner, mais il y en a qui petit à petit vont finalement pratiquer cet acte et c'est ce qui risque de se passer et donc ils vont trahir leur serment d'Hippocrate, trahir leur vocation et ça a un impact réel sur les soignants. Ils peuvent être assez traumatisés par le fait de pratiquer une euthanasie.
Bien sûr.
Puisque c'est, voilà, je me rappelle très bien dans les débats lorsqu'un médecin avait raconté lorsqu'il était en stage et qu'il avait lui-même euthanasié et il a dit: je me rappellerai toute ma vie du visage de cette personne que j'avais euthanasiée. Donc forcément ça traumatise, donc il y a la liberté ôtée aux soignants, il y a aussi la liberté ôtée aux familles finalement, puisque les familles, je rappelle, dans le projet de loi n'ont pas le droit de faire recours suite à la décision du médecin, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors on nous dit que c'est pour préserver des pressions familiales, etc. Effectivement c'est à double tranchant, mais tout de même c'est assez dramatique de voir que la famille est totalement coupée du processus. Et comme vous dites, cela fait de la personne une entité totalement déconnectée. Or, ce qu'on voit, c'est que tout ce qu'on fait dans une société a un impact sur les autres. Et je pense que si cette loi était votée, cela aurait un impact sur toutes nos valeurs, la valeur du soin, la valeur de la solidarité, ce que nous défendons à la Marche pour la Vie, la valeur de la dignité humaine, qui serait donc relative au choix même de la personne.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Lise Pellissier. On espère que votre combat portera ses fruits. Et puis voilà, chers auditeurs, Marie-Lise Pellissier vous a donné 2-3 éléments qui permettront peut-être de faire bouger un petit peu les lignes. Donc n'hésitez pas à vous mobiliser vous-même. Merci beaucoup et puis j'espère à bientôt.
Merci beaucoup.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin. Désolé, je suis affreusement malade. J'espère que ça ira mieux demain. Rassurez-vous, rien de grave. Cela étant, nous avons quand même besoin de votre soutien, pas seulement psychologique comme vous nous donnez chaque matin, mais aussi financier.
Absolument. Je souffre pour vous, cher Alexandre, mais je vous remercie d'avoir tenu la barre comme ça, dans cet état-là. Vous voyez, à Radio Courtoisie, on est motivé, on a la niaque et on veut continuer le chemin. Et pour continuer le chemin, il nous faut du carburant. Alors s'il vous plaît, chers auditeurs, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Soutenir.rc.fr, c'est la page de dons de Radio Courtoisie. Vous pouvez y faire un don par tous les moyens de paiement modernes et même anciens et vous pouvez nous aider ainsi à refuser toute ressource publicitaire et donc à préserver notre indépendance totale. Un grand merci à
laquelle nous tenons particulièrement cette indépendance et qui nous permet de faire toutes ces émissions Ligne Droite et celles qui arriveront aujourd'hui.
Comme dans quelques instants, Arrêt et Affinité de Marie-Christine Lanier avec Gerhard Richter et Hervé Part, compositeur, quatrième épisode de cette série. À midi, le libre journal d'Arnaud Guyot-Janin. À 14h, le libre journal de Chrétienté de Guillaume de Tannouarn pour Jésus et Flavius Joseph. 15h30, le libre journal de L'Occident de Guillaume-Antoine et François-Xavier Jiquel. Aujourd'hui, La société à travers l'objectif, puis Quentin, symbole d'une jeunesse. À 17h30, Restons courtois, dirigé aujourd'hui par Marc Hainaut et son équipe. 19h30, Le bal des facétieux de Charles-Henri Deslois. Un catholique peut-il tuer ? Point d'interrogation. 21h30, le libre journal des littératures d'Hector Burnouf. Et à 23h, les répliques du nouveau conservateur de Paul-Marie Couteau, La France dans le chaos du monde.
Voilà, et chers auditeurs, soyez bien au rendez-vous demain avec Richard de Sèze, qui va d'ailleurs nous faire un petit point sur l'actualité dans quelques instants. Au revoir, chers auditeurs.
Au revoir et à demain 7h.